C'est la même heure dans les studios de Radio de la Paix depuis la Riviera 4, d'où nous émettons. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de l'actualité de la mi-journée de ce vendredi sur Radio de la Paix. Tout de suite les titres. Actualité oblige, Jeux Olympiques Paris 2024, arrivée première de sa série de 100 mètres dames courue ce vendredi. Talou Marie-José Smith vient de se qualifier pour les demi-finales en réalisant un chrono de 10,87. Accusation de déstabilisation du Burkina Faso portée contre la Côte d'Ivoire par le président du Faso. La lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose et surtout la variole du singe sont entre autres sujets abordés lors du dernier Conseil des ministres tenu ce jeudi avant les vacances gouvernementales. Un dossier d'actualité réalisé par notre correspondant régional dans le Logibois, Abel César Cassin, nous conduira à Data, village de la commune de Divo, où a eu lieu récemment la deuxième édition du festival Andimam, festival qui fait la promotion de la dignité des personnes vivant avec handicap. Actualité au Nigeria, au moins 13 morts enregistrés hier lors des manifestations contre la mauvaise gouvernance, selon Amnesty International. Et l'invité de la rédaction de ce jour est Didier Assoumou, journaliste et rédacteur en chef multimédia à Fraternité Matin. Il évoquera la question de la désinformation qui était au cœur d'un séminaire qui s'est tenu récemment à Abidjan. Didier Assoumou sera interrogé en fin d'édition par Paul-Bénédicte Boulou. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information qui s'ouvre sur le dernier Conseil des ministres qui marque donc le début des vacances gouvernementales de 2024 qui s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel d'Abidjan Plateau en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Lors de sa traditionnelle conférence de presse d'après-conseil, le porte-parole du gouvernement a réagi sur plusieurs dossiers d'actualité. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Réagissant aux accusations de déstabilisation portées contre l'État de Côte d'Ivoire par le chef de la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso, le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly rassure.
Notre pays ne sert pas de base pour déstabiliser un pays, quel qu'il soit. Notre pays est une terre d'accueil qui a toujours reçu ici, depuis le président Alfred Boigny, tous les leaders, tous les anciens chefs d'État qui avaient des difficultés, ils ont été reçus ici. C'est le pays qui tend la main à tous ceux qui sont en difficulté.
Amadou Coulibaly a aussi annoncé l'obtention d'un fonds pour la lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose.
À l'occasion de la 7e série de reconstitution de fonds, le Fonds mondial a octroyé à notre pays un montant global de 155,2 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre des activités de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sur la période 2024-2026.
Concernant l'épidémie de variole de singe, le ministre de la Communication invite les populations au respect des mesures édictées par le gouvernement.
Nous avons eu 6 cas de variole du singe, dont un est guéri, fort heureusement. Nous n'avons aucun cas mortel. Je veux juste appeler les populations à observer les mesures d'hygiène, parce que quand on regarde le mode de contamination à travers le contact, et notamment le contact avec les fluides, donc d'une personne infectée, sueur, sang, salive, etc. Donc il faut observer les mesures d'hygiène.
Il faut noter que ce conseil des ministres marque le début des vacances gouvernementales. La reprise est donc prévue pour début septembre.
Intéressons-nous à présent à la politique politique sociale du gouvernement. Faisons le point des réalisations du gouvernement depuis son accession au pouvoir. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principale du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a indiqué que la cherté de la vie observée ces derniers mois n'était pas spécifique à la Côte d'Ivoire, mais est un phénomène mondial que le gouvernement tente de contrôler à partir de mesures mises en place. Il s'exprimait ainsi lors de la troisième édition des rendez-vous du RHDP qui s'est tenu mercredi dernier au siège du parti dont le thème était « La politique sociale du gouvernement RHDP, un remède efficace dans la lutte contre la pauvreté et la cherté de la vie ». On écoute à cet effet le porte-parole du RHDP, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani.
Le PSGouv a permis de réaliser dans le domaine de l'éducation 83 collèges de proximité, la distribution de près de 10 millions de kits scolaires au titre de l'emploi des jeunes. Le nombre d'emplois créés est passé de plus de 2 800 000 au titre de l'accès à l'électricité. 1694 localités électrifiées en matière de construction d'établissements sanitaires, 936 supplémentaires. De la grave crise sanitaire engendrée par la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne, l'on peut noter que la cherté de la vie n'est ni imputable au gouvernement ivoirien, ni spécifique à la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a accordé une subvention partielle des prix des produits pétroliers en opérant des ajustements modérés sur le prix du carburant. Le gouvernement a procédé à un plafonnement des prix des produits de grande consommation. Mieux, il a été mis en place un comité de contrôle des prix de certaines denrées alimentaires.
Nous venons à l'instant d'écouter le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP. Autre chose dans l'actualité nationale, une centaine de jeunes élèves et étudiants ont obtenu des stages d'un mois durant ces vacances scolaires pour une immersion dans plusieurs entreprises de la place. Une cérémonie de lancement a donc été organisée dans le cadre du programme dénommé Insère Jeunes édition 2024 le mercredi dernier à Abidjan Cocody, Riviera 3. On fait le point avec vous, César Yao.
Kipre Christian Pacom, président du réseau solidaire, social et participatif, acteur clé dans la recherche et l'octroi de stages aux élèves et étudiants, estime faire de cette jeunesse des hommes debout dans un futur proche pour le bien-être du pays.
On essaie de vous occuper, ce n'est pas parce que vous vous ennuierez à la maison qu'on vous fait ces stages. Non, ce sont des stages studieux. Il y a deux jeunesses, hein. Il y a une jeunesse saine, il y a une jeunesse malsaine, vous le voyez. Ce que nous voulons faire de vous, c'est des hommes debout de demain et de la République.
Être un stagiaire modèle, plein d'audace et d'ambition, a recommandé au stagiaire un mentor bien connu de la place, Stanislas Zézé.
Prenez ça très au sérieux et d'avoir un comportement exemplaire. Parce qu'en réalité, là où on va vous placer, donc si votre comportement n'est pas bon, vous fermez la porte à des milliers d'autres derrière vous. Donc je vous encourage à être des stagiaires modèles.
Oukino Luciester fait partie de la première promotion 2023. S'adressant à la nouvelle baptisée Audace, elle lui a souhaité d'accroître davantage ses compétences.
Par ma voix, à nos responsables de commune, merci pour vos accompagnements et votre encadrement. Et à la nouvelle promotion qui se rajoute à nous, je nous souhaite un très bon mois de stage et que ce mois de stage-là nous permette encore d'accroître nos compétences et d'en apprendre davantage.
Les nouveaux stagiaires ont un mois d'immersion au sein des entreprises sélectionnées pour donner le meilleur d'eux-mêmes et se donner assez de chances pour une insertion professionnelle réussie à court et à long terme.
1er août 2023, 1er août 2024, cela fait un an jour pour jour que Henri Konan Bédié, l'ex-chef d'État et ancien président du PDCI-RDA, est décédé. De Daoukro, sa ville natale, sa famille politique a tenu à marquer ce jour par une levée de deuil, et une série de manifestations dont nous parle ici Traoré Adam Kolia, le président du conseil régional de l'IFOU, qui revient également sur l'héritage politique de feu Henri Konan Bédié.
À l'occasion de cet anniversaire, nous avons jugé bon organiser une cérémonie. Ça a tant été l'occasion de faire organiser deux conférences pour parler de sa vie, de diffuser un film documentaire sur sa vie et également de permettre à tous ceux qui le voulaient de faire des témoignages pour exprimer ce qu'ils ressentent à cette occasion. Et naturellement, un an après, il a fallu lever le deuil pour permettre aux parents de continuer de vivre et de vivre avec l'esprit du président Henri Konabédié.
Il n'y a pas eu une marche à l'occasion de cette célébration de l'an 1 de ce décès du président Bédié?
Absolument, les choses ont commencé par une marche, une procession, j'allais dire, sur environ 3 kilomètres. Le président a été un homme exceptionnel. Il a eu une carrière exemplaire. Il s'est montré homme de paix, homme de conciliation, homme de réconciliation, quelqu'un qui éprouvait beaucoup d'amour pour ses prochains. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé le sphinx de Daoukro. C'est dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de flair, qui était perspicace, on se rappelle toujours. C'est lui qui a la première fois employé ce terme de démocratie apaisée.
Le président du conseil régional de l'IFU, Traoré Adam Kolia, était en ligne avec Constant Maïlé. Dans l'actualité africaine, au Nigeria, au moins 13 personnes sont mortes jeudi lors de manifestations contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie au Nigeria, affirme donc ce vendredi l'ONG Amnesty International qui accuse les forces de l'ordre d'avoir tué des manifestants pacifique. 6 personnes ont été tuées dans la ville de Suélaja, près de la capitale Abuja au centre du pays, 4 à Maïdougouri au nord-est et 3 à Kaduna au nord-ouest du Nigeria, selon un communiqué de l'ONG Amnesty International publié sur le réseau social X et relayé par l'agence France Presse. Un mot de sport dans ce bulletin. Jeux olympiques Paris 2024, nous le disions en titre, les sprinteuses ivoiriennes ont couru ce vendredi. Mabundu Kone a fini quatrième de sa série de 100 mètres d'âme, donc au pied du podium avec un temps de 11-17. Malgré qu'elle ait battu son propre record, elle s'est arrêtée en quart de finale. Du côté de Talou, Marie-Josée Smith, elle a fini première de sa série de 100 mètres d'âme après avoir réalisé un chrono de 10-87, se qualifiant du coup pour les demi-finales. Sans transition, nous passons au dossier d'actualité. L'ONG Azofev, entendez aide et soutien aux femmes et aux enfants vulnérables, a permis à plus d'une centaine de personnes en situation de handicap de Divo de se retrouver à Data, village de la commune de Divo, pour la deuxième édition du festival Andimam, un festival qui assure leur dignité. Les échos dans ce dossier d'actualité réalisé par Abel César Cassin, notre correspondant régional.
Près de 200 handicapés venus de toutes les localités du département de Divo et d'ailleurs ont pris part à cette fête qui leur était dédiée. Il y a eu exposition d'objets fabriqués à la main, contes et légendes, chants, concours culinaires et bien d'autres choses. La présidente de l'ONG Asofev, aide et soutien aux femmes et enfants vulnérables, Mylène Doucouré, initiatrice de ce festival, en donne le sens.
Cette cérémonie offre une plateforme essentielle pour mettre en avant les compétences artistiques et ou culturelles des personnes en situation de handicap, car ils célèbrent la résilience. Leur lutte pour l'inclusion sociale est une source d'inspiration inépuisable pour nous tous.
Le président de l'association des handicapés de Divo, Fousseni Dramé, était aux anges.
Cette lucarne qui leur est ouverte là, pour venir étaler leurs talents, pourrait en tout cas laver l'image de la personne handicapée en quelque sorte. Nous seulement à l'AFAD, nous avons mobilisé 85 personnes qui sont venues avec nous. Et ici, il y en a qui sont arrivés de Gagnoua, d'autres de Iré, des villages environnants. Mais 250 personnes handicapées actuellement ici.
Bamba Oumou ne fait plus de son infirmité un handicap.
Depuis que je suis née, je suis handicapée. Mes amis se moquent de moi. C'est avant que je me plaignais, mais maintenant, comme j'ai vu que je ne suis pas la seule, donc ça ne me fait rien. Et j'ai eu le PPC à 186 points.
Comme des dizaines d'autres femmes venues pour faire des prestations de danse traditionnelle, Koso Virginie n'est pas une handicapée.
On la considère parce que c'est que nous qui avons les jambes là, c'est que nous pouvons faire là, les handicapés aussi peuvent le faire. Donc c'est pourquoi nous sommes venus à cette fête.
La présence des membres du corps préfectoral à cette fête a été d'un grand réconfort pour les handicapés. Le préfet de Lakota, Binaté Lassidan, salue cette initiative.
Il y aura des résultats probants. Et je pense que le préfet que je suis, qui parle au nom du préfet des régions, est très fier d'apporter son soutien, son appui institutionnel.
Rappelons que cette deuxième édition du festival Handiman avait pour parrain la fondation Serge Botta, du nom d'un industriel ivoirien aujourd'hui installé au Gabon. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Nous arrivons à l'invité de la rédaction et notre invité de ce jour est Didier Assoumou, journaliste, communicateur et rédacteur en chef multimédia à Fraternité Matin. Il a pris part récemment à Abidjan Plateau à un séminaire sur la lutte contre la désinformation dans le cadre du protocole d'accord signé entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Il exhorte par ailleurs les journalistes à une meilleure connaissance d'Internet. Didier Assoumou est interrogé par Paul-Bénédicte Boulou. Entretien.
Didier Assoumou, bonjour. Pourquoi le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a initié cette rencontre ?
Il s'agit de réunir les différents acteurs pour traiter de la question de la désinformation. Et justement, la question de la désinformation aujourd'hui se pose avec acuité, d'autant plus que nous sommes à l'ère du connecté, à l'ère du digital. Et dans cette ère-là, l'information n'est plus l'apanage des journalistes et elle circule à une vitesse lumière, de sorte à ce que il est difficile pour les populations de distinguer le vrai du faux. Et donc, cette rencontre nous permettent justement à tous les participants de partager les différentes expériences en termes de lutte contre la désinformation, des différents outils mis à disposition pour faire du fact-checking et permettent également aux différents acteurs présents ici d'avoir des notions, des expériences pour justement les diffuser au maximum dans la population parce qu'on ne le dira jamais assez, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles et on sait que dans ces périodes-là, il est difficile de distinguer le vrai du faux et c'est, je crois, l'occasion pour les uns et les autres aujourd'hui de faire leur mise à jour de sorte à ce que le moment venu nous soyons donc des acteurs clés pour permettre aux populations d'avoir l'information vraie.
Vous vous êtes prononcé sur la présence des journalistes sur les réseaux sociaux et vous souhaitez aujourd'hui qu'ils soient de plus en plus présents sur Internet. Pourquoi ?
Pour permettre aux uns et aux autres justement d'avoir la bonne information et puis ensuite il faut se mettre ensemble, créer des groupes de fact-checking. C'est un nouveau genre journalistique, on peut le dire ainsi, qui permet justement aux internautes d'avoir des mécanismes, donc des outils pour pouvoir déceler la vraie et la fausse information. À l'ère de l'intelligence artificielle, on parle de plus en plus de deepfake. Ces différentes notions-là sont justement à partager avec les populations et permettent aux populations d'être au fait justement de ces outils disponibles également sur Internet pour permettre de déceler la vraie et la fausse information.
Alors quel a été le constat en Afrique, même particulièrement en Côte d'Ivoire, ces 5 dernières années ?
On a constaté justement que les acteurs locaux font partie justement des personnes qui émettent de fausses informations. Et puis à côté des acteurs locaux, nous avons les grandes puissances. Donc certains pays ont été identifiés comme étant des vecteurs de fausses informations pour soit influencer la politique internationale. Mais en ce qui nous concerne, nous parlons justement des élections présidentielles, il faut faire un travail sur les acteurs locaux. Nous savons que les Ivoiriens sont présents en grand nombre sur Facebook. 7 millions d'Ivoiriens sont présents sur Facebook. Et en cette période d'élection, il est bon justement de sensibiliser la population à éviter les discours de haine, à éviter de diffuser les mauvaises informations. Et pour les populations, l'idée, c'est vraiment que, avant de partager une information, il faut être sûr qu'elle soit crédible. Et nous disposons justement d'outils pour permettre aux uns et aux autres de déceler la vraie et la fausse information. Et puis, exhorter encore une fois les journalistes à être présents sur la toile, parce que nous sommes des professionnels de l'information et nous pouvons contribuer à aider les populations justement à avoir l'information vraie.
Pour l'homme lambda, hein, comment justement se protéger contre ces fausses informations ? Quels sont ces outils que l'on propose ?
Il y a par exemple certains outils ou certains signes. Par exemple, si vous tombez sur une page Facebook où il n'y a pas de photo, c'est déjà suspect. Si vous tombez sur une page Facebook où c'est un nom d'emprunt ou pseudo, il faut s'en méfier. Aujourd'hui, nous avons des pages Facebook certifiées. Donc, par exemple, si vous cherchez d'informations sur la présidence, vous avez la page Facebook officielle de la présidence avec la marque bleue. Donc, déjà, je veux dire, pour prendre une information pour vrai, il faut savoir qui en est l'auteur. Il faut chercher à savoir d'où vient cette information afin d'être sûr justement de l'origine de l'information. Donc, pour pour me résumer, déjà, l'émetteur de l'information peut être identifié. Et si l'émetteur de l'information n'est pas identifié clairement, il y a déjà un problème à ce niveau.
Après cette formation, pour la suite, ce sera quoi?
La suite, ce serait intéressant pour les différents acteurs, que ce soit nationaux comme internationaux, de se mettre ensemble, de créer des réseaux et à travers ces réseaux-là, de continuer à partager les expériences. On ne le dira jamais assez. Sur Internet, c'est les mises à jour perpétuelles, quotidiennes. Donc, le fait de créer un réseau ensemble nous permettra, de part et d'autre, d'échanger les différentes évolutions en la matière et de créer des comités de veille. Nous l'avons fait lors de la crise de la Covid en Côte d'Ivoire avec Ivoire Fact-Checking. Et donc, c'est des exemples qui existent. C'est des exemples à repiquer et à consolider. Et à travers donc, ces rencontres-là, nous continuons de nous former pour nous mettre à la disposition de la population afin de leur permettre d'avoir l'information vraie.
Merci infiniment à vous, Didier Assoumou.
Je vous en prie.
L'invité de la rédaction de ce vendredi, Didier Assoumou, journaliste, communicateur et rédacteur en chef multimédia à Fraternité Matin, répondait aux questions de Paul-Bénédicte Bolou. Cet entretien marque donc la fin de ce bulletin. Tout de suite, le rappel du principal titre. Jeux olympiques Paris 2024, arrivée première de sa série de 100 mètres dames courue ce vendredi. Talou Marie-Josée Smith vient de se qualifier pour les demi-finales en réalisant un chrono de 10,87. Et Mabundu Kone, arrivée quatrième et ayant battu son propre record, n'a pu se qualifier. C'est sur cette information sportive que se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. L'actualité revient à 15h. Dans quelques instants, la revue de presse de Jean-Mélène Bitty. Bonne suite de programme sur Radio de la Paix.
Bonjour à tous. Les opérations de dégarpissement à Abidjan-Adjamé suscitent de